VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Il est midi à Conakry, 13h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. En Centrafrique, le gouvernement menace aujourd'hui de radiation les policiers de Bangui en grève depuis le 11 avril pour un meilleur salaire et l'amélioration de leurs conditions de travail. Un mouvement très suivi qui a forcé les autorités centrafricaines, selon l'AFP, à faire appel aux policiers municipaux, à la gendarmerie et à la police de la force onusienne MINUSCA pour remplacer les grévistes. Au Burundi, les adversaires de troisième mandat du président Pierre Nkurunziza promettent de continuer les manifestations en dépit de la répression des forces de sécurité et des entraves aux activités des médias. Le point avec Jean-Roger Bion.
La radio publique africaine, station la plus écoutée du pays, a perdu son autorisation d'émettre et son signal est coupé. Elle est accusée par les autorités d'incitation au soulèvement. Depuis dimanche, les trois principales radios privées du Burundi ne pouvaient plus émettre en dehors de Bujumbura. Hier matin, Pierre Claver Mbonimpa, patron de la principale organisation de défense des droits de l'homme, a été arrêté. Un mandat d'arrêt a été émis contre Vital Nshimirimana, président du Forum de la société civile. Il est passé dans la clandestinité, mais a promis de poursuivre le mouvement anti-Nkurunziza. Environ 320 personnes ont été arrêtées selon un responsable de la police. Trois personnes ont été tuées dimanche dans des affrontements entre manifestants et policiers. Deux autres personnes ont péri après des descentes nocturnes à Chibitoke, au nord de la capitale burundaise.
En RDC, deuxième jour des états généraux de la justice à Kinshasa. Objectif de cette réunion qui va durer jusqu'au 2 mai, permettre aux magistrats, avocats et membres de la société civile de diagnostiquer les maux qui entravent l'accès à la justice dans le pays et proposer des solutions. C'est la première fois en 19 ans qu'on organise des états généraux sur ce sujet. Reportage sur l'ouverture des travaux hier avec Eric Ambago de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Redorer le blason terni de la justice congolaise, c'est le sens de ces assises dont les dernières ont été organisées en 1996. Le président congolais Joseph Kabila, qui a ouvert ses travaux, a fait un constat. Il reste beaucoup à faire pour crédibiliser la justice congolaise.
En dépit des avancées que nous enregistrons sur le terrain de réformes institutionnelles dans le secteur de la justice, les comptes sont loin d'être faits sur ce qui intéresse les justiciables. Il s'agit de ce qui touche à la dignité de l'homme, à la sécurité de son patrimoine et aux transactions grâce auxquelles il participe à la création de la richesse nationale.
Le président du syndicat national des magistrats du Congo estime que ces états généraux doivent permettre de faire un vrai diagnostic sur les maux qui rongent la justice congolaise. Sambaï Mutenda Lukusa.
Et il faut aussi que les membres de cette assemblée soient francs et que tout le monde comprenne que nous avons aujourd'hui un combat de quitte ou double. Où la justice marche, ou elle ne marche pas.
De son côté, Maître Franck Mulenda, avocat au barreau de Kinshasa, ces assises doivent permettre d'instaurer une justice distributive en République démocratique du Congo.
La justice, c'est le dernier rempart de la société. C'est la base, le fondement du contrat social. Il ne faut pas qu'il y ait une justice pour les riches et une justice pour les pauvres.
Pour sa part, l'ONG Human Rights Watch souhaite que des recommandations sur la lutte contre l'impunité soient adoptées par les participants à ces travaux. De Kinshasa, Eric Ambago de Top Congo, pour VOA Afrique.
La lutte contre Boko Haram au Niger maintenant, plus de 72 heures après l'attaque meurtrière des islamistes nigérians contre l'armée du Niger à Karamga, une île du lac Tchad, toujours pas de bilan précis de l'incident et silence du côté de Niamey. Félix Yepassi Zembrou nous en dit plus.
L'armée nigérienne a perdu 48 soldats et 36 se sont portés disparus selon une source sécuritaire tchadienne. Un élu de la région de Difa, dans l'extrême est du Niger, fait état de 80 soldats tués et une trentaine de disparus. Une autre source proche de l'armée parle de 100 morts et 17 disparus. Un agent humanitaire déclare qu'il y a eu énormément de pertes à Karamga, une île du lac Tchad où étaient positionnés 120 à 150 soldats nigériens. Les combattants de Boko Haram ont pris d'assaut l'île le samedi à l'aube et sont restés jusqu'à la mi-journée. Il a fallu l'intervention des hélicoptères tchadiens stationnés à Difa pour les déloger. Cette île a déjà été attaquée le 20 février. Le bilan officiel était 7 soldats et 15 islamistes tués.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Togo, le président sortant Faure Gnassingbé maintient son avance dans le décompte du scrutin présidentiel de la semaine dernière. Après dépouillement d'environ 25% du vote, le chef de l'État mène avec 69% des voix contre 17,9% pour son rival le plus proche, le chef de file de l'opposition Jean-Pierre Fabre. C'est ce qui ressort des résultats rendus publics aujourd'hui par la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Mais selon l'AFP, les chiffres annoncés jusqu'à présent concernent principalement le nord du pays, fief traditionnel de la famille Gnassingbé. La CENI n'a pas encore donné de résultats pour la capitale Lomé, un bastion de l'opposition. Au Mali, l'économie nationale va nettement mieux. Plus de détails avec Félix Yepassis Zembrou.
Au Mali, une nouvelle mine d'or dont les réserves sont estimées à 240 000 onces, soit environ 7,7 tonnes, a été inaugurée samedi par le ministre des Mines, Bouba Cissé. Cette mine d'or située à Kofi dans la région de Kaï devrait rapporter au Mali près de 23 millions de dollars sur une période d'exploitation de 4 ou 5 ans. De quoi renforcer l'économie malienne sur une pente ascendante, selon Mamadou Diarra Di-Igor, ministre malien des Finances.
L'économie malienne a enregistré une reprise avec un taux de croissance de 7,2% grâce à la bonne campagne agricole et au rebond du secteur secondaire. Les projections pour 2015 tablent sur 5% de taux de croissance avec un taux d'inflation aux alentours de 1,7.
Mamadou Diarra Di-Igor, ministre malien des Finances. Le Sénégal a mis en place un fonds de garantie pour les investissements prioritaires. Dans le cadre de son plan Sénégal émergent, ou PSE, Dakar veut amener le secteur informel ainsi que les petites et moyennes entreprises à participer au développement. La diaspora sénégalaise est également sollicitée, d'où la tournée de l'administrateur du fonds JIP aux États-Unis et au Canada qui se termine aujourd'hui mardi. Idriss Fall a joint Doudouka, l'administrateur du fonds, pendant son escale à Washington.
La diaspora est une des cibles prioritaires puisque, comme vous le savez, beaucoup de porteurs de projets viennent de la diaspora. Et aujourd'hui, la stratégie du gouvernement du plan Sénégal émergent est de promouvoir l'investissement vers les secteurs prioritaires comme l'agriculture, les secteurs à haute valeur ajoutée. Et il s'agit de venir déjà présenter le produit nouveau, le fonds JIP à la diaspora et de les inciter à investir dans le pays, à réaliser leurs projets. Il s'agit d'aller au Canada pour rencontrer la diaspora, aux États-Unis, à New York, à Atlanta, à Washington et à Columbus.
Est-ce que votre tournée a donné concrètement quelque chose?
Oui, nous avons déjà enregistré des projets intéressants pour en citer. Il y a une fédération des femmes coiffeuses des États-Unis qui ont déjà mis en place une société anonyme avec 100 000 dollars de capital déjà libéré et qui voudrait investir dans un domaine agricole au Sénégal vers Moro avec un projet de 340 millions. Également, il y avait un autre sous-fonds de garantie qu'on a mis en place, c'est le fonds de garantie pour l'accès au logement des personnes à revenus irréguliers pour leur permettre d'accéder tout de suite à des crédits pour réaliser leur projet de logement.
Doudouka, administrateur du fonds JIP, un fonds de garantie au Sénégal. Actualité américaine, la police de Baltimore, le grand port de l'État du Maryland à une quarantaine de kilomètres de Washington, fait état du déploiement de la garde nationale dans plusieurs quartiers de la ville qui ont été le théâtre de violences et de pillages hier soir, après les obsèques d'un jeune noir blessé à la suite de son arrestation par des policiers au début du mois et décédé plus tard à l'hôpital. Pourquoi cet accès de colère de la minorité africaine-américaine? Un début de réponse avec Omar Cissé, un Malien habitant à Baltimore.
Il y a une grande majorité de Noirs américains qui vivent dans une sorte de gangrène dont ils n'arrivent pas à s'en sortir. Naturellement, nous avons beaucoup de gens qui se sont donnés à la drogue et beaucoup qui sont en probation, et la pauvreté. Donc, tu mets tout ça ensemble avec la manière dont ils sont coincés, je dirais, par les policiers. Donc ça peut créer un truc comme ça.
Omar Cissé, un Malien de Baltimore, joint par Bagassi Koura. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info.